Bonjour et bienvenue dans le podcast Journal d'une curieuse créative. Je suis Chloé, paysanne et passionnée par les arts textiles. Je suis avide d'apprendre, de créer et de partager mes découvertes avec vous. Je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. Revenir à l'essentiel pour vivre une vie authentique. Nous sommes au mois de février 2019 et vous êtes dans le premier épisode de la saison 2 de mon podcast. Je suis ravie de vous retrouver et je suis contente d'entamer cette deuxième année de podcast. Donc le format sera toujours le même, vous aurez 4 segments: à la ferme, l'atelier fibre laine, lecture et curiosité. Donc pour cet épisode, donc à la ferme, on va parler un peu des agnelages, de toutes les naissances. Pour l'atelier fibre laine, il y aura un petit peu de tissage, un nouveau tricot sur les aiguilles, un petit peu de crochet. Pour la lecture, je vais vous emmener vers le pôle Nord avec Terreur, un livre de Dan Simons qui retrace un petit peu la conquête des pôles et notamment la découverte du passage du Nord-Ouest. Et dans le segment curiosité, on va rester un petit peu sur ce thème-là. Je vais reprendre un petit peu l'histoire de cette découverte et le parcours de tous ces explorateurs. Donc si vous n'êtes pas frileux, et ben restez avec moi. À la ferme. Et ben ça a été un mois intense parce que c'est le mois des agnelages pour les brebis. Les agnelles vont mettre bas dans un mois. Et donc on a eu 85 agneaux nés en l'espace de 23 jours. Donc c'était assez groupé. Et elles ont pris place dans leur nouveau tunnel d'élevage, fraîchement installé. Et donc tout le monde va bien. Cette année, on a 7 biberons. Donc chaque année, je dis non, il n'y aura pas de biberons. Ceux qui peinent un peu, je ne ferai pas de biberons. Ils ne doivent pas attendre de mon aide. Et puis chaque année, je fais des biberons. Donc ça c'est très sympa, et puis cette année il y a encore pas mal d'agneaux noir et blanc avec des taches qui sont nées, et j'adore, il y en a des très mignons, il y en a des mouchetés, il y en a qui ont juste des lunettes noires, d'autres avec une petite tache sur le nez, c'est très rigolo. Toutes les naissances se sont bien passées, j'ai pas eu à intervenir, j'ai juste eu 3 donc agnelles de l'an dernier. Donc c'était leur premier bébé qui n'ont pas, et elles ont fait des doubles et qui n'ont pas trop su, elles s'en sont occupées, ils étaient propres, léchés, mais elles veulent pas du tout se laisser téter, d'où les biberons. Et donc les agnelles Hampshire et les Mélimousines de cette année vont mettre bas dans un mois. Donc voilà, pour l'instant il y a encore, on a encore eu des beaux jours. On a encore des prés où il y a un petit peu d'herbe. Donc on a ressorti les jeunes et voilà, ils profitent un peu de ce mois de février relativement exceptionnel. Au niveau du poulailler, on a depuis décembre, je crois, 30 poules, ouais. 30 poules pondeuses. Et donc elles ont commencé à bien pondre et là on a atteint un peu notre record. On a eu 27 œufs un jour et puis on est plutôt autour de 24-27 œufs par jour. Donc ça c'est très agréable, c'est un moment où on va récolter les œufs avec Elga, donc c'est toujours très sympathique. Ça se vend bien à la boutique à la ferme, les clients des légumes sont très contents d'avoir des œufs de la ferme bio. Donc ça c'est plutôt chouette de pas avoir à chercher un autre circuit de commercialisation. Et puis le poulailler mobile est vraiment très pratique, là elles sont dans le verger en fait, Et ça, c'est super parce que ça entretient un peu l'herbe du verger, du moins. Donc j'espère qu'il y aura un petit peu moins de travail de débroussailleuse au printemps. On verra. Et puis sinon, j'ai fini ma formation chien de troupeau avec la chambre d'agriculture. Donc c'était la dernière session, c'était il y a 2 semaines. Et donc ça a été très très formateur et encore très intéressant. Donc là il est encore, donc Lopi, c'est le chien de troupeau que j'ai. Il a 8 mois, donc il est encore jeune, un peu jeune, mais ça a été très formateur parce que déjà on apprend des nouvelles choses et surtout les formateurs corrigent nos erreurs. Et c'est vrai que je pense que ces formations sont très importantes pour le chien évidemment, mais surtout pour le formateur. Et je pense que, enfin en tout cas moi, je fais beaucoup d'erreurs avec le chien. Et du coup, le dressage est un petit peu plus long parce que je dois corriger ces erreurs, disons. Et c'est vrai que il y avait des choses que je laissais passer sans m'en apercevoir et qui devraient pas, que le chien ne devrait pas faire, enfin des choses comme ça. Donc ça a été super intéressant. En plus, on a fini sur une très très belle journée dans les monts d'Ambazac. Voilà. Donc là, j'ai repris un petit peu les bases, disons. J'essaie de toujours bien me positionner mon corps, j'essaie d'avoir la voix adéquate, le regard adéquat, les gestes qu'il faut au bon moment. Et voilà. Et j'ai aussi commandé un livre, pareil, sur l'entraînement des chiens de troupeau, de Julie Hill. Ça s'appelle The Natural Way. Et en fait, c'est une dame qui a une méthode de dressage des chiens, je dirais assez complète, et qui est beaucoup sur donc la relation homme-chien, et puis dans la communication, pas forcément verbale, justement, elle est beaucoup dans les attitudes, le regard. Et je suis en train de lire ce livre et c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà, j'espère que j'aurai les capacités de bien dresser mon chien. À suivre! L'atelier Fibrelaine. Pas vraiment eu le temps de beaucoup travailler la laine en ce moment, mais j'essaie quand même de faire un petit peu tous les soirs. Ça, c'est vraiment, je dirais que c'est un petit peu comme une habitude parce que quand je peux pas le faire, j'en ressens le besoin, ou une habitude ou une addiction, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, j'essaie vraiment chaque soir de faire un tout petit peu de tissage, même si c'est juste deux passages de navette, ou de tricoter juste quelques mailles. Et petit à petit, c'est vrai qu'à la fin de la semaine, ça avance quand même. Donc là, j'ai commencé la semaine dernière, j'ai commencé une écharpe et je l'ai finie là, ce matin. Ce matin très tôt, car la petite se lève très tôt. Et je suis très contente de cette écharpe, parce que donc c'est une écharpe toute simple. Et je suis très contente parce que j'ai vraiment, vraiment amélioré mes lisières. Elles sont nettes, elles sont régulières, et la tension est non pas parfaite, mais constante. Donc ça, c'est assez chouette. Tout ça, va partir pour la boutique des Monts de Guéret. J'ai déjà fait un dépôt de produits il n'y a pas longtemps, mais enfin voilà, donc j'en refais. Et sinon, au niveau tricot, j'ai commencé un pull. C'est le pull Avalanche de Heidi Kiermaier. Donc le pull que je fais, il est relativement simple. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec des raglans, avec deux petites torsades frontales et un petit motif très très joli. Et pour ça, j'avais commencé un projet en crochet avec cette laine. Et en fait, je me suis rendu compte que le point n'était pas adapté à la laine. Le rendu de l'ouvrage était très ferme, pas du tout souple. Et en fait, ça n'allait pas. Donc j'ai décrocheté ce que j'avais fait, qui représentait 13 heures de travail, je crois, pour retricoter un pull. Ça me pose pas de trop de soucis de tricoter, défaire, refaire. Je préfère avoir quelque chose que j'aime vraiment plutôt que de ne pas défaire, continuer et de ne pas être entièrement satisfaite. Donc c'est une laine, c'est un tweed Donegal que j'avais acheté dans une filature dans les Pyrénées. Et c'est une très très jolie laine. Je m'étais déjà fait un gilet avec, je sais plus le nom, enfin qui est très joli aussi, que je porte assez souvent avec des gros boutons noirs. Et j'aime beaucoup cette laine. Et j'ai vu sur un site italien qui vendait des cônes de cette laine. Donc si j'ai un petit peu de temps, je prévois peut-être plus tard dans l'année d'en acheter donc en cône pour me faire un autre pull ou à la main ou à la machine, je vais voir. Donc ça, je suis assez contente, j'ai fini tout le corps et il me reste les deux manches. Voilà, donc ça devrait aller assez vite. Et au niveau crochet, j'ai quand même un ouvrage sur le crochet. Je fais une couverture pour notre lit en fait. J'ai eu pour mon anniversaire du coton, des mini pelotes de coton. Donc c'est la laine chipche et c'est un color pack en fait. Donc il y a 109 petites pelotes de coton de 10 grammes à peu près. Et donc ce que je fais, c'est que je fais un rond avec 5 tours de double bride. Et ce rond, je le transforme entre guillemets en carré avec une lisière gris clair. Voilà, et puis je vais assembler tout ça pour faire une couverture. Voilà pour mes petits projets les nœuds. Lecture. Donc ce mois-ci, j'ai commencé un livre un peu par hasard. Je sais pas comment je suis tombée dessus, mais c'est le livre Terreur de Dan Simmons. Et donc c'est un livre qui est paru, je crois, en 2007 ou 2008. C'est pas un livre très récent, mais je l'avais pas. Enfin, je ne le connaissais pas. Et c'est un livre sur. Ça retrace un petit peu la conquête des pôles et notamment le passage du Nord-Ouest. J'aime beaucoup ce livre. Je ne l'ai pas fini, il me reste 3 chapitres à lire. Mais je vous en parle quand même parce que il est très 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 captivant. Je vous lis le résumé. 1845. Vétéran de l'exploration polaire, Sir John Franklin se déclare certain de percer le mystère du passage du Nord-Ouest. Mais l'équipée, mal préparée, tourne court. Le Grand Nord referme ses glaces sur Erebus et Terror, les deux navires de la marine royale anglaise commandés par Sir John. Tenaillés par le froid et la faim, les 129 hommes de l'expédition se retrouvent pris au piège des ténèbres arctiques. L'équipage est, en outre, en butte aux assauts d'une sorte d'ours polaire à l'aspect prodigieux qui transforme la vie à bord en cauchemar éveillé. Quel lien unit cette chose des glaces à Lady Silence, jeune Inuit à la langue coupée et passagère clandestine du Terror? Serait-il possible que l'étrange créature ait une influence sur les épouvantables conditions climatiques rencontrées par l'expédition? Le capitaine Crozier, promu commandant en chef dans des circonstances tragiques, parviendra-t-il à réprimer la mutinerie qui couve? Donc c'est le résumé. Donc ça s'est inspiré d'une histoire vraie en fait. Ça, c'est donc l'expédition de John Franklin s'est vraiment passée à l'époque de l'Angleterre victorienne et c'est vraiment un roman très intense. Il est assez long, je sais plus combien il y a de pages, mais enfin bon, il est assez long et mais très très captivant. Il y a certains moments un peu plus lents, mais c'est vraiment enfin, en tout cas, moi j'avais déjà lu des récits, mais donc d'histoires vraies sur justement cette conquête des pôles et tout ça. Et ça m'a. Enfin, vraiment, ça me fascine. Je trouve que c'est un peu une recherche un peu mystique, quoi, ce passage du Nord-Ouest. Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est. Donc là, c'est un roman, mais c'est un petit peu les descriptions. Les descriptions qu'il fait des hommes, des paysages, de ce qui leur arrive, de l'ambiance sur les navires, des températures incroyablement froides. Enfin, c'est vraiment. J'avais déjà lu un livre de Dan Simmons, c'était Drood, et j'avais beaucoup aimé l'ambiance, pareil, très noire, très. Mais là, vraiment, il installe une atmosphère assez prenante. Et en fait, on a des récits, c'est une narration assez particulière parce que ça ressemble à un journal de voyage. Et en même temps, il y a des comptes rendus de l'équipage. Les personnages sont extrêmement cohérents avec leur époque. Il y a énormément de clivages entre les couches sociales, les indigènes, entre le sacré et le profane, entre les différents milieux socioculturels qui se rencontrent sur ces navires. Et c'est vraiment, on est immergé dans le quotidien de cette époque, qui devait être très très dur à vivre. Donc voilà. Donc c'est pas un récit de voyage. Enfin, c'est un récit de voyage, mais c'est vraiment dur. Voilà, on sent qu'ils ont faim, on ressent leur faim, on ressent leur froid. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un grand livre et c'est vrai que j'aime beaucoup ces livres de récits maritimes. Et il met des détails techniques vraiment, vraiment intéressants. Il y a du vocabulaire maritime très intéressant. Voilà, on retrouve un peu beaucoup de choses et c'est assez dramatique par certains aspects, notamment de quasi-survie en fait de ces gens qui étaient coincés dans ce bateau. Voilà pour ma petite lecture de ce mois-ci. Donc j'ai pas tout à fait fini. Mais vraiment, je vous le conseille si vous aimez un petit peu cette époque, si vous aimez suivre différents personnages assez haut en couleur. Je pense qu'il a fait beaucoup, beaucoup de recherches. Bon, c'est romancé, hein, mais il connaît bien le sujet, à mon avis. Et enfin, c'est une histoire enfin, vraiment qui me passionne. Parce que je trouve ça fou qu'à cette époque, avec les moyens qu'ils avaient, en fait, ils pouvaient faire ça, quoi. Voilà. Et donc, il y a aussi pas mal d'allusions à leurs habits, et notamment sur le fait ils ont besoin de beaucoup de couches de laine pour survivre à des températures de moins 60, moins 40, enfin vraiment. Vraiment un roman passionnant de bout en bout. Moi, j'ai du mal à me sortir de ces pages, quoi. Voilà, éprouvant mais extraordinaire. Je vous le conseille. Curiosité. Donc pour faire suite au segment précédent qui était sur le livre Terreur de Dan Simmons, j'ai fait un petit peu des recherches justement sur ces expéditions. Et je voulais vous raconter un petit peu l'histoire de cette conquête mythique du passage du Nord-Ouest. Donc j'ai fait quelques recherches, donc je vais vous lire un petit peu ce que j'ai trouvé et que j'ai mis en forme pour que ce soit agréable à l'oreille. Donc la conquête du passage du Nord-Ouest, une exploration périlleuse. Nous sommes à l'époque des grandes découvertes, de la ruée vers l'or et les épices d'Asie. Quelques années après Christophe Colomb et bien avant Magellan, le Vénitien Giovanni Caboto, alias John Cabot, se lance dans le premier à la recherche d'un passage vers la Chine par le Nord-Ouest. Donc il part en 1497 avec 18 hommes d'équipage et un navire de 50 tonneaux. Il croit avoir découvert le Japon lorsqu'il aborde ce qui devrait être la presqu'île de Terre-Neuve. Donc il y a une deuxième expédition à la tête de 5 navires affrétés par le roi Henri VII d'Angleterre et celle-ci lui sera fatale. John Cabot n'en revient pas en fait. Et comme bon nombre de navigateurs, d'explorateurs et de commerçants qui après lui vont rivaliser d'audace et de férocité pour tenter de contourner par le nord cette terre qui s'interpose entre l'Europe et l'Asie, une terre dont on ne mesure pas encore qu'elle a l'étendue d'un continent. Les cartes nautiques regorgent de ces noms qui ont fait l'histoire souvent dramatique de l'introuvable passage du Nord-Ouest et de l'exploration de toute cette région de l'Arctique. La baie de Forsbischer, le détroit de Davis, le cap Peary, le canal Fox, Fort Ross, la pointe Button, le passage de Franklin, l'île de Baffin, la baie d'Hudson. Maintes fois, on crut l'avoir déniché, ce fameux passage, comme Henry Hudson en 1610. Il est persuadé d'avoir atteint les côtes de l'Asie lorsqu'il débouche sur l'immense baie qui porte aujourd'hui son nom. L'hiver le surprend et l'équipage est au bord de la mutinerie. Pris dans les glaces, Hudson semble perdre la raison. À bout de force, ses hommes vont le livrer à l'enfer blanc en l'abandonnant dans une chaloupe. Ceux qui prennent la relève ne font que pousser plus loin l'exploration de la baie d'Hudson, dont les richesses révélées, fourrures notamment, poissons, baleines, suffisent à rassasier les appétits commerciaux des marchands et des monarques anglais ou hollandais, tandis que la France, elle, installait ses comptoirs sur le Saint-Laurent entre Québec et Montréal. Donc pour situer un petit peu les origines dans le cours de l'histoire, en 1271, c'est Marco Polo, qui est un jeune marchand de Venise de 17 ans, qui accompagne son père et son oncle en voyage d'affaires. 3 ans plus tard, donc en 1274, il atteint la Mongolie par la route de la soie. Il est présenté à la cour de l'empereur mongol Kublai Khan, le petit-fils du célèbre Gengis Khan, et celui-ci est depuis peu maître de la Chine. Il a envahi Pékin en 1271. Donc, au service de l'empereur mongol, Marco Polo devient un homme important. Il est chargé de missions dans tout l'empire. Il voyage alors en Chine, en Mongolie et dans l'océan Indien. Il explore ainsi des terres qu'aucun Européen n'avait foulées avant lui. 17 ans plus tard, donc en 1291, Marco Polo décide de rentrer à Venise. Il arrive en 1295 avec une fortune de pierres précieuses et il rend célèbre les richesses et les merveilles des Indes et de la Chine dans un livre sur son étonnant voyage. Dès son retour, les marchands européens voulaient profiter eux aussi des richesses décrites par Marco Polo. Ils essayèrent donc de trouver des voies maritimes plus rapides pour rejoindre les Indes et la Chine. Ce sont principalement des explorateurs anglais qui tentèrent de découvrir le passage du Nord-Ouest situé au nord du Canada. Ils explorent des terres inconnues dans des conditions extrêmes au mépris du danger. Et ce passage est constitué d'un véritable labyrinthe d'îles. Et trouver un passage, c'est pas facile, notamment parce que c'est pris dans les glaces l'hiver. Donc, parmi les premiers explorateurs, je vous l'ai dit, on retrouve le navigateur anglais William Baffin. Lui, il part en 1616, en fait. Donc, il découvre l'entrée du passage du Nord-Ouest. Et il dit ça à l'amirauté britannique, en fait, qui refuse de croire sa découverte. Et là aussi, on a un clivage social, en fait. Apparemment, son histoire n'est pas crue parce qu'il n'est pas issu de la noblesse. Et donc, il dessine une carte, apparemment, qui a été perdue. Et donc, il faut attendre 2 siècles pour que le navigateur écossais Sir John Ross joue un rôle aussi important dans la découverte du passage. Et donc, c'est en 1818, donc 2 siècles après Baffin, qui découvre aussi l'entrée du passage du Nord-Ouest, mais il croit que c'est une baie fermée. Il fait donc demi-tour, malgré les protestations de tout son entourage. Équipage, pardon. Et c'est au cours de ce même voyage que Sir John Ross découvre les Esquimaux polaires. Donc c'est les Esquimaux qui vivent le plus au nord. Et ils habitent le nord-ouest du Groenland. Leur capitale, c'est Thulé. Donc eux, ils sont habitués à vivre dans des conditions extrêmes. Une mer gelée quasiment toute l'année. Des températures qui vont jusqu'à moins 60 degrés Celsius. Ils ont très peu de matériaux, de bois. Et leur moyen de survie, c'est essentiellement les phoques, les morses, les ours aussi, et puis les oiseaux. Donc, Sir John, il fait demi-tour au moment même où il s'apprêtait en fait à découvrir le passage du Nord-Ouest. Et c'est William Edward Parry, le lieutenant de John Ross, qui a l'idée de retourner sur les lieux l'année d'après, en 1819. Et lui, il découvre donc le passage, mais il n'ose pas s'y aventurer. Et l'un des explorateurs le plus tristement célèbre, on va dire, c'est Sir John Franklin, qui, au cours de sa troisième expédition dans l'Arctique, son navire, les glaces ont emprisonné son navire, en fait. Et il est donc décédé en 1847 sur son navire, et tout l'équipage a disparu l'année suivante. Et donc, ça s'est un petit peu romancé dans le livre de Dan Simmons. Et apparemment, c'est une disparition assez mystérieuse aujourd'hui. On n'a pas trop d'éléments, on ne sait pas trop quoi. Et comme il était assez. C'était un officier assez important, assez renommé, l'amirauté britannique a envoyé 52 expéditions partir à sa recherche. Ça a duré 12 ans et ils n'ont pas trouvé en fait. Et donc en 1853, c'est l'anglais Robert McClure qui recherchait donc le commandant Franklin qui traverse le passage du Nord-Ouest en traîneau à chien. Et donc c'est lui, disons, qui a découvert vraiment le passage du Nord-Ouest. Donc en traîneau à chien et pas par voie maritime. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et si vous avez l'occasion d'aller voir, d'avoir un livre ou de voir des photos sur Internet de ces expéditions, c'est vraiment. Déjà, les bateaux sont très impressionnants, en bois, avec des voiles. Et puis, les hommes aussi sont vraiment très impressionnants. Et je vous invite à aller, si ce n'est lire un petit peu sur ce sujet, aller voir des photos. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça passionnant de savoir qu'ils ont fait ça à l'époque où ils étaient, avec des chaussures. Je sais même pas. Je ne sais même pas leur équipement, mais. Enfin, voilà. Voilà pour l'histoire un petit peu de la conquête des pôles. Et cette histoire justement ces expéditions successives de John Franklin, de McClure, l'expédition aussi d'Amundsen. Donc ça c'était plutôt en 1900, début 1900, qui est parti un peu sur les mers pour échapper à ses créanciers, qui voulait pas qu'il parte dans cette expédition. Il termine en fait son voyage après 3 ans, et à la fin de son voyage, il entre dans une ville d'Eagle en Alaska, et il envoie un télégramme annonçant son succès. Donc voilà, ça c'était assez marrant, tous ces gens passionnés qui ont un peu fous même, je dirais, qui sont partis comme ça sur des bateaux dans des mers gelées. Voilà, donc pour le petit segment curiosité, j'espère que ça vous intéresse et que vous allez aller voir des petits articles et des petites photos sur ce sujet parce que c'est vraiment passionnant. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable mois de février. Je vous donne rendez-vous dans quelques temps, j'espère le mois prochain, pour des nouvelles de la ferme, des nouvelles de l'atelier fibre laine, quelques lectures et puis bien sûr notre petit segment curiosité pour des découvertes sympas. Je voulais vous dire aussi merci d'écouter ce podcast. J'ai toujours l'impression d'enregistrer pour une ou deux personnes, notamment mes sœurs. Et puis en fait, j'ai regardé les statistiques sur le site qui héberge ce podcast et j'ai vu qu'il y avait plus de 2000 téléchargements. Donc, c'est rigolo. J'avais pas pris conscience que des gens m'écoutaient. Merci à vous. Et puis surtout, restez curieux.